أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. يقول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها. Donc, oh, chers musulmans, comme il est demandé aux musulmans d'être purs, et alhamdoulilah, on a terminé la série sur la pureté et la purification du corps, du yani être pur dans le, avant les ablutions, avant la prière. Donc comme il est demandé aux musulmans d'être purs des impuretés, de se purifier des impuretés lorsqu'il veut prier, il lui est également demandé d'être pur sur son corps, sur ses habits et sur le buqa, sur l'endroit où il va prier, de purifier ces endroits-là des impuretés. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset: et tes vêtements purifie-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il a ordonné à la femme de laver l'endroit où elle a eu une tache du sang des menstrues. Wal aslu alladhi yuzalu bihi an-najasa huwa al-ma. Et la base, la source avec laquelle on nettoie les impuretés, c'est avec de l'eau. فهو الأصل في التطهير كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Donc c'est la base dans la purification, c'est le fait de se purifier avec de l'eau. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, dans Sourate Al-Anfal, le verset 11, il dit dans le sens du verset: et il vous fit descendre de l'eau sur vous afin que vous vous purifiez. والنجاسة التي تجب إزالتها. Donc ici, on va expliquer quelles sont les impuretés dont il nous est obligatoire de se purifier et de les enlever et de les faire disparaître avant de faire la prière. إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والحضور والصخور عفوا. Il dit donc, Cheikh ici, il explique que les impuretés, elles peuvent être de différents types. Premier type, c'est une impureté qui est sur le sol et sur la terre, ou qui est sur les murs, ou qui est sur l'endroit, un exemple, la pierre, si tu veux prier sur des rochers, etc. Tu dois regarder s'il n'a pas d'impureté sur l'endroit où tu vas prier. Il dit « Fahadihi, fahadihi yakfi fi tatihiriha raslatun wahida » يعني أنها تغمر بالماء بصب عليها مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بان في المسجد. الحديث معروف عندهم أو عندكم. وكذا إذا غمرت بها المطر والسيول. Ici, ce premier type d'impureté, c'est-à-dire qui n'est pas sur toi directement, elle est sur l'endroit où tu vas vouloir prier, ou sur un mur, un exemple sur les murs ou sur le sol, etc. Dans un endroit aussi, un mur, bien sûr, on va prier sur un mur. Quand on dit le hétan ici, c'est le hétan, c'est connu en arabe pour être le mur. À la koulihal, c'est le sol. Le sol, si tu veux prier, soit sur un tapis, si tu veux prier sur un sol, si tu veux prier sur n'importe quel endroit, tu vérifies s'il y a une impureté. Ici, ce type d'impureté-là, il te suffit simplement de jeter de l'eau dessus. Comme dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à... Lorsque le bédouin était rentré dans la mosquée et avait uriné dans la mosquée, qu'est-ce qu'il a ordonné aux compagnons du prophète sans sème? Simplement de verser de l'eau sur l'urine. Donc un exemple, si dehors, un jour tu es amené à prier dehors, et tu te dis, peut-être qu'il y a des chiens, etc., qu'ils ont fait des excréments, toutes ces choses-là, ici, soit si l'excrément il est là, tu verses de l'eau, ou sinon si tu sais qu'il a plu, s'il a plu, ou un exemple, il y a un fleuve ou un torrent qui est passé, ici, automatiquement, ça a disparu. Donc la pluie, ça rentre dans cela. Donc si tu sais que tu as prié dans un endroit et qu'il y a plu juste après, on considère que l'impureté a été effacée. Donc là, maintenant, on va distinguer l'impureté qui est, mais qui n'est pas sur le sol. فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منها فتطهير بالسبع غسلات إحداهن بالتراب وأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فليغسل سبعا أو أولاهن بالتراب وهذا الحكم عم على الإناء وغيره كالثياب والفروش هذا الحكم عم على الإناء وغيره كالثياب والفروش وغير ذلك. Donc ici on a vu si l'impureté elle se trouve sur le sol. On verse de l'eau dessus simplement. Maintenant, si l'impureté, on va distinguer, maintenant, les impuretés, elles ont des différents degrés d'impureté. Si c'est ce qu'on appelle comme grande najas al-murallah, des grosses impuretés, comme la bave de chien. Et pour certains savants, la bave du khinzir, du porc. Donc si c'est la bave du chien et du porc, et bien sûr de leur chiot, etc., si tu es atteint sur ton habit par la bave d'un de ces animaux-là, ici, tu vas faire 7 lavages. Tu vas laver ton vêtement tu vas laver 7 fois ton vêtement, donc avec de l'eau. Et dans un des lavages, tu mélangeras de l'eau à de l'eau, tu mélangeras de la terre. Et tu laveras, donc tu fais 7 lavages. N'importe quel lavage que tu choisis, tu mélangeras de l'eau avec de la terre et tu nettoieras cette bave. Car ici, c'est la plus grosse des impuretés, qui est la bave du cochon ou la bave du chien. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, il dit, lorsque le chien bave dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il lave 7 fois et que l'un des lavages soit avec de la terre. Et ici, le cheikh, il explique, il dit, ça, c'est pas spécifique au récipient. C'est pas spécifique au récipient. S'il bave sur ton récipient, tu fais comme si tu laves ton récipient. S'il bave sur ton habit, tu laves ton habit, etc. وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول. Donc ici, si l'impureté est autre que l'impureté de la bave du chien ou de la bave du porc, ici il t'est obligé bien sûr de l'enlever, donc un exemple comme de l'urine ou des excréments ou le sang des menstrues, etc. Il dit, il t'est obligé de la laver avec de l'eau et de gratter ce qui est sec jusqu'à faire disparaître toute partie solide. C'est un exemple, il y a de l'excrément sur ton habit. Ici, premièrement, tu dois le nettoyer. Mais s'il est sec, tu dois gratter ce qui est sec. Il ne faut pas dire il est sec, je le laisse. Tu grattes ce qui est sec. Donc ça, c'est c'est très important, laver avec de l'eau, gratter ce qui est sec, donc toutes les parties solides. Ensuite, une fois que tu as gratté, tu frottes avec de l'eau et tu laves ton habit afin de faire disparaître l'impureté. Donc ici, il y a un ordre à respecter. Tu grattes, tu frottes avec de l'eau et ensuite tu laves ton habit. Si tu as un exemple de l'urine ou de l'excrément ou le sang des règles. Et ici, il est important de comprendre que l'impureté, elle a trois caractéristiques. Le goût, l'odeur et la couleur. Si la persistance du goût ou de l'odeur après le lavage, ici la persistance du goût et de l'odeur après le lavage indique que l'origine de l'impureté demeure et qu'elle n'a pas disparu. C'est-à-dire que si toi tu laves, mais tu sens encore une odeur, tu sens encore l'odeur de cette impureté, ici on considère que l'impureté elle n'a pas disparu. Donc tu dois continuer à laver. Mais si tu as lavé ton vêtement, tu as frotté, tu as bien lavé ton vêtement avec de l'eau, mais il n'y a plus d'odeur. Mais il reste la couleur, des traces. Ici, on considère que l'impureté est partie et les traces ne sont pas... Il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez voir aussi dans le Shahd de Boulour al-Maram de Cheikh Bassam, où il explique cela. « Wa in khufiya mawdi'u najasa fi badanin aw thawbin aw buq'atin sagira kamusalla sagir wajaba ghaslu ma ihtamala wujubu an-najasa fi hatta yazhiba bi zawaliha. » Et même si c'est, il y a un tout petit endroit qui est atteint par l'impureté, ici tu te dois de laver et de nettoyer cette impureté et de laver cette impureté, de la faire disparaître. Wa in lam yadri fi ayyi jihatin minhu ghasalahu jami'ahu. Donc ici un exemple, il y a des gouttes d'urine qui tombent, même des petites gouttes, toi tu sais où elles sont tombées, ici tu es obligé de laver l'endroit. Pourquoi tu laves ? Tu laves l'endroit où c'est tombé, quand tu sais. Mais lorsque tu ne sais pas, là tu ne sais pas, tu sais qu'il y a une impureté sur toi, mais tu ne sais pas, elle peut être là. Ici, tu es obligé de tout laver. Tu es obligé de tout laver pour sortir du doute. Wa yakfi fi tathhir bawl al-ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am rashatun bil-ma'. Wa in kana ya'kul at-ta'am li-shahwa wa ikhtiyar fa bawluhu mithlu bawl al-kabir. Ensuite, on passe à l'urine des enfants. L'urine des enfants, est-ce que c'est une impureté ou pas? Ici, on regarde. Si l'enfant est un garçon, il y a deux caractéristiques. Si l'enfant est un garçon, mais cet enfant ne mange pas c'est pas un enfant qui mange la nourriture des adultes. Il ne mange pas de la viande, il ne mange pas du... Il est encore au stade de l'allaitement, il boit du lait, etc. Si c'est ça, l'urine de cet enfant, si elle tombe sur toi, ce n'est pas une impureté. Tu as simplement à jeter de l'eau dessus et ça suffit. Maintenant, si ce garçon, il mange de son plein gré, il mange comme nous on mange. Ici, son urine, c'est exactement la même que l'urine d'un adulte. Et la petite fille, qu'elle allaite ou qu'elle mange de son plein gré, ici son urine dans tous les cas, de sa naissance jusqu'à son adolescence, son urine dans tous les cas sera une impureté. Donc ce sera exactement comme l'urine de l'adulte. J'espère que je suis clair. L'enfant, si c'est un garçon qui allaite, on va simplifier la traduction. Si c'est un enfant qui allaite, son urine, tu as simplement à frotter dessus. Si c'est un garçon qui n'allaite pas, il mange comme nous on mange, ici, son urine, c'est le même que l'urine des adultes. Et si c'est une fille, à la kulihal, dans toutes les circonstances, son urine, c'est comme l'urine des adultes. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à savoir. C'est difficile pour moi d'expliquer, de peur que vous ne comprenez pas, mais c'est vraiment, concentrez-vous, parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes, surtout pour ceux qui ont des enfants, etc. « Wa fi jami'i hadhi al-ahwal yughsalu ka ghasli sa'iri al-najasat » Donc que ce soit dans toutes ces circonstances, tu vas laver ton vêtement ou ton habit ou la partie de ton cœur, tu laves comme toutes les autres impuretés. فَالنَّجَاسَةَ عَلَى ثَلَاثَ أَنْوَاعَ. Donc ici on a détaillé et on a vu et on résume que les impuretés sont de trois catégories. Premièrement, نَجَاسَةَ مُغَلَّظَ وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَنَحْوِ. Premièrement, c'est la plus grande des impuretés, l'impureté qui est lourde. Et la plus grande des impuretés, c'est la bave du chien. Ou autre, comme le khinzir, etc. Ça, c'est la plus grande des impuretés. Ensuite, najas al-mukhaffafa, des impuretés qui sont des, qui, on va dire des, elles sont moins impures, moins sales que la première. Donc ce qu'on appelle mukhaffafa, des impuretés légères, si on peut traduire comme ça. Ici, c'est l'impureté du petit garçon, l'impureté de l'enfant garçon qui ne mange pas encore de repas. Et il y a une impureté, entre les deux, l'impureté qui est entre les deux, c'est tout le reste, comme l'urine, comme les excréments, comme le sang des menstrues, etc.
ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أوراث وأبوال الحيوانات.
Une fois qu'on a déterminé ces impuretés, il nous est obligatoire de connaître et de savoir quelles sont les impuretés parmi les animaux. Qu'est-ce qui est impur parmi les animaux, comme le crottin des animaux, etc. Qu'est-ce qui est impur parmi les animaux? Parce que ce n'est pas tous les crottins des animaux qui sont impurs. Ce n'est pas à chaque fois que tu auras un crottin sur toi que tu devras considérer comme une impureté. On est obligé de connaître ces choses-là.
Il dit « فَمَا كَانَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ مِنْهُ فَبَوْلُهُ وَرَوْفُهُ طَاهِرٌ كَالْإِبِلْ وَالْبَقَرْ وَالْغَنَمُ وَنَحْوِهَا »
Premièrement, tous les animaux qui nous sont licites à manger, comme les chameaux, les ovins, les bovins, etc. Tout cela, il n'y a rien d'impur dans cela, ni son urine, ni son excrément, ni sa bave. Ce n'est pas impur. La bave d'une vache, la bave d'un chameau, la bave d'un mouton, etc. Est-ce qu'on va considérer cela impur comme la bave du chien? Jamais. Ici, ce n'est pas impur.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها.
Ici le hadith, il y a un hadith sahih au Sahih Bukhari. Où il y a un mutafaq alayhi, Bukhari muslim. Où il y a des gens, on l'appelle les gens de l'Urayna, c'était une gens d'une contrée, des gens d'une contrée, qui sont venus rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, on n'a pas le temps de le citer dans son entièreté, mais celui qui peut revenir à ce hadith, c'est un hadith énorme. C'est le hadith 233 dans Sahih Bukhari. C'est une histoire ajiba. Et ces gens-là de l'Urayna, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ils n'ont pas supporté le climat. Ils sont tombés malades. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on ramène des chameaux qui étaient destinés à la sadaqa. Il a ordonné qu'on les ramène pour qu'ils puissent boire de leur lait et de leur urine. Car l'urine du chameau a énormément de bienfaits. Donc là, on voit bien que dans ce hadith, si l'urine du chameau aurait été une impureté, à aucun moment on peut s'en servir dans la médecine prophétique. Et ici, le prophète aurait ordonné de boire l'urine du chameau. Et Inch'Allah, je vous laisse la suite du hadith. Regardez dans Sahih al-Bukhari, le hadith 233, c'est un hadith qui est ajib.
فَدَلَّ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِهَا لِأَنَّ النَّجَسَ لَا يُبَاحَ التَّدَاوِي بِهِ وَشُرْبِهِ.
Ici, pourquoi ce hadith nous prouve que l'urine de ces animaux est autorisé, car il est interdit, ça c'est une règle dans l'islam, il est interdit de prendre comme remède des choses qui sont haram. Il est interdit de prendre comme remède des choses qui à la base sont impures ou des choses qui sont interdites.
فَإِنْ قِيلْ إِنَّمَا أُبِيحَ لِلْضَرُورَةِ قُلْنَا لَمْ يَأْمُرُهُمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِغَسْلِ أَثَرِهِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةِ وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدْ يُصَلِّ فِي مَرَابِدِ الْغَنَمْ
كما في حديث البخاري ومسلم
وَأَذِنَ الصَّلَى فِيهَا كما في حديث مسلم وَهِيَ لَا شَكَّ يَبُولُ فِيهَا
تَبُولُ فِيهَا. Ici, quelqu'un va nous dire, non, akhi, va dire attention. Il va dire, ici, dans ce hadith, le prophète Hassan a ordonné de boire leur urine, l'urine des chameaux, c'est simplement parce que c'était une nécessité. Nous, on répond quoi à ces gens-là? Ils nous disent, c'est par barora, par nécessité. On leur dit, subhanallah, alors d'ici, ça aurait été par nécessité, le prophète Samuel aurait ordonné de refaire leurs ablutions, ou de se nettoyer les traces de lait ou les traces d'urine de chameau qu'ils avaient pu boire, et alors qu'ici, il ne leur a rien ordonné après. Il n'aura pas dit comme condition, buvez cela, mais nettoyez ensuite votre bouche. Et également, ce qui est connu dans vous pouvez voir dans le hadith, dans Sahih Bukhari et dans Sahih Muslim,
le hadith 234 dans le Bukhari et le 1174 dans Sahih Muslim, que avant que la mosquée ait été construite à Médine, avant que la mosquée ait été construite à Médine, le prophète Hassan faisait la prière où? Il ordonnait aux compagnons de faire la prière où? Dans les parcs à moutons, dans le, où est-ce que les moutons paient, ils restent, etc. Ici, la prière, elle était faite ici. Et le Cheikh Yusuf Fawzan, il dit quoi? Il dit, il a même ordonné qu'on fasse la salat ici. Il dit donc, si les crottins auraient été une impureté, les crottins des animaux qui nous sont licites, s'ils auraient été une impureté ici, ils n'auraient pas prié dessus. Et on sait très bien qu'un parc à animaux, surtout un parc à moutons, etc., ils urinent dedans, il n'y a pas de doute sur cela, alors qu'ils ont prié dessus sans rien nettoyer. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في الأوراق الطهارة إلا ما استنفي. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجي la base dans la tahara, dans la pureté. La base, c'est que tout est pur, sauf les choses où on a un texte qu'on vient, yani, sauf les choses qui sont, yani, qui ont une exception. وسؤر ما يأكل لحمه. Donc on a vu qu'est-ce qui était pur, c'était Tout ce qui concernait les animaux qui nous étaient licites. Également, ce qui est pur, c'est sourun ma yukalu lahmun tahir. Également, les restes de ce qu'ils ont mangé. Un exemple, si tu touches le reste de ce qu'une vache ou ce qu'un chameau, etc., a mangé, est-ce que c'est impur? Non, on ne considère pas que c'est impur, elle est la bave, etc. Wa sourun hirra tahir. Maintenant, on fait une exception. Donc, quelqu'un va se dire, ben, dans ce cas-là, je prends cette règle. Je me dis, tout ce qui est en rapport avec les animaux qui nous sont licites, à la nourriture, c'est pur. Donc, le contraire, c'est que tout ce qui est en rapport avec l'urine, les excréments, des animaux qui nous sont interdits, c'est haram, c'est najasa. Nous, on le donne une exception pour le chat. Pour le chat, plutôt le hirra, la chatte. Ici, sa bave, la bave du chat. Et ça, c'est important de savoir pour quelqu'un qui a un chat. Est-ce que lorsque ton chat te bave sur toi, ou tu ramasses, est-ce que c'est une najasa? Ici, on dit non. Ici, c'est une exception faite pour le chat. Et regardez la beauté de l'islam. Regardez, subhanallah, beaucoup de gens ont déchanché. Imagine, ça aurait été une najasa, ça aurait été une impureté. Ça aurait été une machaqa, ça aurait été une difficulté. Donc ici, la bave du chat ou de la chatte, ici, là, t'adores, il n'y a pas de problème. فَرَوْثُهُ وَمَا عَدَ الْهِرَّ. Et tout ce qui est en dehors du chat et de la chatte, et bien sûr du chaton, etc. وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا لَا يَأْكُلْ لَحْمُ. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas manger, sa viande, فَرَوْثُهُ, ses crottins, وَبَوْلُهُ, son urine, وَسُؤْرُهُ, et ses restes, yani sa bave, etc., najis. Tout le reste, ce sont des impuretés. La règle elle est claire. Tout ce que l'on peut manger, ce n'est pas une impureté. Tout ce que l'on ne mange pas, c'est une impureté, exception faite pour le chat. Je pense avoir été clair. Fait najasa, donc ici on va résumer les najasa, pour résumer tout ce qui est impur. Ici, baulul adami wa ra'itun. Ça on l'avait déjà vu. L'urine de l'être humain et ses excréments. El madi wal wadi. El mani afwan. El mani wal. Là, al-madi wal-wadi, pas le mani. Donc le liquide séminal, le liquide pré-séminal, ça on avait déjà fait le khutbah que sur ça. Donc le sperme, on avait expliqué que le sperme n'était pas une impureté. L'impureté, c'était le madi et le wadi, le liquide qui sortait après les urines et le liquide qui sortait après les rapports, après l'excitation. Pas après les rapports. Le liquide qui sort après l'urine, ça c'est le wadi. Lui, c'est une impureté. Donc on lave le sexe et les testicules. Le liquide qui sort lorsque tu as une excitation, ce liquide-là qui sort, ici c'est une impureté. La même chose, tu laves le sexe et les testicules. Mais le sperme, c'est pas une impureté. Si tu es touché ton habit par du sperme, simplement tu vas frotter, tu vas enlever la trace, mais c'est pas une impureté. La harash, tu peux prier comme ça. Bien sûr, tu frottes simplement, comme si tu avais une trace, tu vas la nettoyer, mais c'est pas une impureté. Ça, on avait fait une khutba quasiment que sur ça. Donc pour celui qui a des questions, qui revient à l'audio de ce qu'on avait fait il y a quelques semaines. Ensuite, les crottins, les urines et
les restes et la bave de tout ce que l'on ne peut pas manger, sa viande. Damul hayd, les sangs des menstrues. Walu'abul kalb, et la bave du chien et la bave de tout ce qui est en qiyas, en rapport avec le chien. Et aussi al-mayta, les bêtes mortes. Toutes les bêtes mortes sont impures. Les bêtes mortes sont une impureté. وَيُسْتَثْنَ مِنْ ذَلِكَ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ. Et ici on fait une exception. C'est pour les bêtes mortes comme les poissons, comme les sauterelles. Ou toutes les bêtes, mais qui n'ont pas de sang, comme les fourmis, les araignées, etc. Toutes ces bêtes-là, ici c'est exception en fait. Ce n'est pas une impureté. Comme les mouches, etc. Les abeilles, etc. أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل ذلك طاهر. Mais ce qui concerne leurs os, les os des bêtes mortes, les ongles, les poils, les plumes, un exemple, les cornes pour les éléphants, etc. Tout ça c'est pur. Tout ça, ça rentre pas dans la najasa. Tout ça c'est pur. وقوفاً على الأصل وهو طهارة. Et ici وقوفاً على الأصل, car la base, on avait dit comme la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, que à la base toute chose est pure sauf lorsqu'on a une exception. Ayyuha al-muslim, ô musulman, alayka an tahtam bi at-tahara zahiran wa batina. Donc on termine cette khutbah par un tanbih, une remarque très importante pour tous les musulmans, qu'il est important, il est obligatoire pour nous qu'on prenne garde et qu'on prenne en toute considération la pureté, que ce soit la pureté extérieure comme la pureté intérieure. Batilan, c'est quoi la pureté intérieure? On l'avait déjà expliqué. La pureté intérieure, je crois, c'est le tawhid. L'unicité d'Allah, Azza wa Jal. C'est la plus importante des puretés. Que tu purifies ton cœur de toute forme de shirk. Que tu purifies ton cœur de toute forme d'association envers ton Seigneur. Bil ikhlas, la pureté du cœur, c'est la sincérité. Que toutes les œuvres que tu fais, toutes les actions que tu fais dans ta vie, tu les fasses pour Allah, Azza wa Jalla, sincèrement pour lui, pour rechercher son agrément. Et que tu t'écartes de l'ostentation, et que tu t'écartes de l'ostentation et de la réputation, et de toutes ces choses-là. Car, alhamdoulilah, on étudie comment se purifier l'extérieur, mais Allah, ikhwan, l'intérieur est incomparable par rapport à la purification de l'extérieur. Donc, iyakum ani tahara, tahara al-batiniya. Ici, il est très important de purifier son intérieur dans les actions et dans les paroles. Wadahiran est la purification extérieure, le fait de se purifier des impuretés et des impuretés. Fa'inna dinana dinu tahara, fa'inna dinana dinu tahara, wal-nazafa wal-nazaha min al-aqdhaf. Donc notre religion est une religion de pureté, de propreté. Notre religion est une religion de pureté, de propreté et d'abstinence de tout ce qui est impur. Al-hissiyya wal-ma'nawiyya, que des choses impures que l'on peut ressentir comme ce que l'on ne ressent pas, comme le shirk. Le shirk, c'est une impureté, c'est la plus grande des impuretés. On ne la ressent pas, elle est batinie. Alors que tout le reste, les impuretés perpétuelles qu'on peut toucher, ici on s'écarte nous des deux, et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-tahur shatr al-iman, la pureté et la moitié vous fait partie de la foi. Fa'alayka ya Abdullah bil ihtimam bit tahara wal ibti'ad an al anjas. Donc qu'on prenne garde de bien se purifier et de s'écarter de tout ce qui est impur. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an 'amata 'adhab al-qabr min al-bawl wal 'iyad billah. Et ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué et nous a informé que la majorité des gens qui seront châtiés dans leur tombe, c'est notamment à cause d'une cause qui est à cause des urines, à cause de le fait qu'on ne prenne pas en considération l'urine qui tombe sur nous et on ne la préserve pas. حينما لا يتحرز منه الأنجاس الإنسان فإذا أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرا لا سيما عندما تريد صلاة. Donc ici on résume et on termine sur le fait que lorsque tu as une impureté sur toi, précipite-toi à l'enlever. Précipite-toi à l'enlever, surtout lorsque tu veux prier. وعندما تريد الدخول في المسجد, et lorsque tu veux rentrer à la mosquée. فانظر إلى نعليك, regarde, ici nous, alhamdoulilah, on a des mosquées qui sont dans les tapis. Mais si un jour tu pries, si tu pries dehors, etc., prie avec tes chaussures. Pas obligé de prier en chaussettes, prie avec tes chaussures.
Nous, on a l'habitude de prier en chaussettes ou en pieds nus, simplement parce qu'il y a un tapis, on va se rendre en chaussures. Mais le fait de prier, tu pries chez toi, ou tu pries dehors, tu es avec tes chaussures ou tes sandalettes, il n'y a pas de problème. Tu les laisses. Mais ici, tu vérifies. Vérifie si tu as marché dehors avec ces chaussures. Vérifie qu'il n'y a pas d'impureté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى الصلاة